Appel sur l'actualité 33 1 53 92 64 40. Muriel Pomponne.
Bonjour à tous, seconde partie d'Appel sur l'actualité pendant une demi-heure jusqu'à 9h, temps universel, l'antenne est à vous. Nous allons donc parler du nouveau code de la famille au Mali. Des associations musulmanes protestent contre ce texte qui a pourtant été adopté à la quasi-unanimité par les députés. Elles estiment que la nouvelle loi ne respecte pas les traditions du pays et samedi, une manifestation d'opposants à ce code a rassemblé 50 000 personnes. Le chef d'État n'a pas encore promulgué la nouvelle loi, alors que doit-il faire pour suivre la concertation? Que pensez-vous de ce nouveau code de la famille? Quels sont les points que vous contestez ou ceux au contraire qui vous donnent satisfaction? Votre point de vue nous intéresse. L'antenne est à vous. Je vous rappelle le numéro de téléphone où vous pouvez nous appeler 33 1 53 92 64 40. Et nous appelons tout de suite Ali à Bamako. Ali, vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien.
Alors Ali, que pensez-vous de ce code de la famille?
Bonjour d'abord à tous les auditeurs de la Radio France Internationale. Le nouveau code de la famille et de la personne qui a été adopté par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines fait l'objet de contestations, surtout oui, par les associations islamiques, comme vous l'avez dit. Je crois que les autorités et les partis politiques avaient minimisé la réaction. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction, comme vous l'avez dit tout de suite. Plus de 50 000 opposants. Donc, je me rappelle le jour du vote de ce code, le président de l'Assemblée nationale insistait sur la nécessité d'information, d'explication et de diffusion de son contenu. À mon avis, ce travail n'a pas été fait parce que vous savez que la majorité de la population ne sait ni lire et ne comprend pas par conséquent les textes de ce code.
Alors pour vous, c'est un problème d'information, mais il n'y a pas de problème sur le fond. Le texte, vous-même, vous le comprenez, vous avez tendance à l'approuver.
Voilà, je le comprends très bien. Parce que les articles que les associations islamiques contestent, surtout en ce qui concerne l'égalité de l'héritage entre garçons et filles, sont déjà une réalité au Mali. Quand au problème aussi de l'héritage entre enfants dits naturels et légitimes, c'est aussi une réalité parce que, contrairement à ce que certains disent, dans nos valeurs traditionnelles, il n'y a pas de discrimination entre enfants naturels et enfants légitimes. Tous les deux ont droit égal à l'héritage de leur géniteur.
Donc pour vous, en fait, ce code ne va pas changer grand-chose?
Non, non, non. Mais le problème est que certaines personnes ont profité de cette incompréhension pour véhiculer des informations, voire des intoxications, peut-être dans le seul but de contester un peu le régime. Parce que ça veut que beaucoup de Maliens font face à d'énormes difficultés, le chômage, la hausse des prix des premières nécessités. Donc, avec tous ces problèmes, voilà, certains ont profité de ce code pour manifester leur mécontentement.
Alors, il y a quand même des points précis, Ali, comme par exemple le relèvement de l'âge du mariage à 18 ans pour les garçons comme pour les filles. Ça, c'est quand même un changement dans un pays où les filles sont souvent mariées très jeunes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Sur ce problème, même dans l'ancien code, je crois pour les jeunes filles, c'était à partir de 16 ans. Mais en réalité, voilà, donc dans les mariages, on tient rarement compte de ce problème et tout passait normalement.
Donc voilà. Il faut plutôt voir pour vous la réalité du terrain que le texte et il faut surtout informer la population. On va appeler maintenant Soumaïla à Abidjan. Soumaïla, vous, que pensez-vous de ce nouveau code de la famille?
Bonjour à tous les auditeurs de RFI d'abord. Donc déjà, depuis l'entrée matière, j'ai dit que peut-être que je suis pas du tout d'accord avec le premier intervenant déjà. Il faut savoir que je crois, depuis à l'état du projet, il y avait des discussions autour. Cette consultation que le président est en train de faire actuellement, parce que si vous suivez bien l'information, aujourd'hui, il doit rencontrer la communauté musulmane. C'est pour vous dire que depuis à l'état du projet, ce code n'a pas été accepté. Bon, quand je dis que c'est le code de la famille, il ne s'agit pas de la totalité, mais les points qui sont aujourd'hui.
Alors, quels sont les points que vous contestez?
les quatre points qui ont été pris exactement par la communauté musulmane, et surtout il faut bien cadrer les choses, il ne s'agit pas de la communauté musulmane seulement. Au cours de cette marche organisée à Bamako, ce n'était pas la communauté musulmane seulement. Il y avait aussi les familles fondatrices de Bamako. Ça, c'est très, très important.
Alors, oui, mais quels sont les points donc, que vous contestez, vous, personnellement?
Personnellement, quand on dit dans une famille que, par exemple, je vais vous donner juste un seul exemple, que la femme peut entreprendre, par exemple, une activité, c'est-à-dire commerciale, même sans l'accord de son mari. Vous croyez que dans une famille comme ça, est-ce qu'il y aura la stabilité? Il y aura l'entente?
Mais Soumaïla, la réalité malienne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes dont l'activité économique permet à la famille de vivre.
Exactement, mais il ne s'agit pas de le mener sans l'accord de l'autre. C'est très important.
Et alors, comment fait la femme, par exemple, si le mari est parti, parce qu'il y a beaucoup de maris maliens qui immigrent, alors comment fait la femme dans ce cas-là pour mener une activité économique si son mari n'est pas là?
Mais si son mari n'est pas là, la femme est toujours en contact, au moins sur le plan communicationnel avec son mari. Ça, c'est très, très important. C'est le plus souvent le mari absent. Il n'est pas absent parce qu'il veut être absent. Selon la réalité malienne, généralement, il est absent pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Je suis parfaitement d'accord que la femme puisse mener des activités, c'est-à-dire génératrices. Je suis d'accord, c'est important dans un couple. Mais il s'agit d'être, c'est-à-dire de bien cadrer les choses. Je vais vous dire un exemple. C'est ce que, c'est-à-dire que, comment on appelle, je crois que l'État et les politiciens ont oublié. Vous êtes dans un pays majoritairement musulman, c'est-à-dire à plus de 95%. C'est très, très important. L'effet est là. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, il ne faut pas essayer de prendre des décisions souvent, moi je dis que c'est trop occidentalisé. Et ce qui m'a le plus déçu, c'est le comportement de l'Assemblée nationale. J'ai du mal à comprendre que ça a passé presque à l'unanimité des députés. Hein? Presque à l'unanimité des députés. Je me dis que est-ce que réellement c'est des députés maliens? Je n'ai pas compris ça, franchement.
Pour vous, la religion musulmane donne moins de droits aux femmes qu'aux hommes?
Non. C'est la mauvaise compréhension. Et je vais vous dire, vous avez dit que lors de la marche de samedi, il y a eu 50 000 personnes. Vous croyez que 50 000 personnes parmi ces 50 000 personnes, il n'y a pas une seule personne qui a compris ce code? On peut affirmer ça?
Je ne vous dis pas ça. Je vous demande si pour vous... l'homme, donc, doit avoir plus de droits que la femme et que c'est la religion musulmane qui le dit, puisque c'est apparemment ce que je comprends dans votre discours.
Non, c'est-à-dire que c'est la mauvaise compréhension de la religion musulmane que vous dites ça. Il n'y a pas, c'est-à-dire que l'homme n'a pas plus de droits que la femme. Non seulement, chacun a son droit, mais dans un couple, il y a au moins un chef, ou si vous voulez bien, un premier responsable. L'homme est le premier responsable dans un couple. Donc, quand vous dites que, c'est-à-dire que même en dehors de l'accord du premier responsable, l'autre peut mener une activité, bon, je crois que c'est pas plus de stabilité dans un foyer. C'est très important de ce que vous devez voir.
Il y a un point, Soumaïla, dans le nouveau code, on ne parle plus du devoir d'obéissance de la femme vis-à-vis de son mari, mais du respect mutuel entre époux. Est-ce que ça vous convient?
Bon. Oui, ça peut passer. C'est beaucoup plus important derrière. Je suis parfaitement d'accord. Ça veut dire qu'on ne rejette pas tout un corps, non. Mais il y a des points qui ne passent pas. Et je crois que pour vraiment une stabilité dans notre pays, vraiment pour la sécurité, comme a dit Dico, il faut que le président continue à consulter, comme il avait consulté avant. Il ne faut jamais oublier que ces points d'achoppement aujourd'hui l'ont toujours été même à l'état de projet.
Soumaïla, je vous ai bien compris, je vais vous demander de rester en ligne, mais je voudrais parler maintenant avec Moïse. Moïse qui nous écoute dans un petit village près de Ségou. Moïse, est-ce que vous êtes d'accord avec Soumaïla? C'est la femme qui doit obéir à l'homme?
Non, je dis non, je ne suis pas du tout, je ne partage pas son avis.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, Moïse?
Moi, je pense tout le contraire. Je ne suis pas d'accord avec Soumaïla, là où il dit que surtout sur le code de famille concernant surtout la femme. Moi, je pense que, au contraire, la femme aussi doit mener ses activités. Et ce qu'il dit n'est même pas vrai. Je ne sais pas s'il est un bon pratiquant musulman ou pas, mais qu'il n'a qu'à consulter bien ses leaders religieux et les demander conseil. la religion donne priorité d'abord à l'homme. Et la femme a moins de droits que l'homme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le nouveau code qui dit que la femme aussi doit être sur le même pied d'égalité que l'homme.
Alors, pour vous,
elle n'est pas un objet.
Alors, par exemple, concrètement, Moïse, vous, ça ne vous dérange pas qu'une femme ouvre un commerce sans demander l'accord de son mari ?
Non, pas du tout. C'est tout. Entre nous, là, la femme, quand on l'amène à la maison, c'est pour qu'elle contribue au développement du foyer. Je pense que la vie d'un couple, c'est un peu ça. Hein? On ne peut pas amener une femme en foyer et puis la demander de se couvrir tous les jours, elle ne sort pas, elle reste en famille, toutes ces petites choses-là. Non, je pense que c'est dépassé aujourd'hui. Le foyer a besoin de l'apport de tous les couples.
Alors le respect mutuel entre époux à la place de l'obéissance de la femme vis-à-vis de son mari, ça vous convient également?
Oui, ça me convient, c'est vrai. Non, on ne dit pas que la femme ne doit pas obéir à son mari, non, mais c'est un respect mutuel qui est là. Le respect qu'il doit au mari, le mari en retour doit le même respect à la femme. Je pense que c'est tout à fait normal.
Soumaïla, vous entendez Moïse oui. Alors, Moïse a des arguments aussi quand même, hein?
Oui, je comprends ce qu'il dit, mais peut-être il n'a pas compris ce que moi j'ai dit. Je n'ai pas dit que la femme ne doit pas mener des activités génératrices. Je vais vous dire, pour lui qui dit que peut-être la religion, il ne comprend pas. Je vais vous donner un exemple qui est plus frappant. Le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, sa première épouse, là, elle était une grande commerçante. Il a travaillé pour cette femme dans le cadre de son commerce. Cela veut dire quoi? Que la femme peut mener une activité généraliste. Mais on dit que dans un couple, il y a toujours, c'est-à-dire un responsable à travers lequel on peut demander un accord.
Si jamais le mari ne veut pas que sa femme fasse du commerce, alors qu'est-ce qui se passe?
Elle ne doit pas faire. C'est aussi simple que ça. Je vais vous dire une chose, Myriam, s'il vous plaît. Il faut que ça dise que Moïse comprenne. Je suis sûr qu'on a, je ne suis pas de même religion qu'il vit, mais il y a une compréhension à faire. En matière de religion, quand on dit rouge, c'est rouge. C'est clair et net, tout est défini clairement. Il faut que ça dise que cela soit compris. Et je vous dis, les deux institutions qui s'opposent à certains points de ce code sont des institutions très très importantes dans notre pays.
Alors Moïse, je voudrais redonner. Oui, Soumaïla, je vous ai compris. Je redonne la parole à Moïse pour qu'il vous réponde et puis après on passera à d'autres auditeurs parce qu'il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Moïse, Soumaïla dit qu'il est important que la religion musulmane soit prise en compte dans ce code de la famille parce que la très grande majorité des Maliens sont musulmans. Alors que dites-vous à cela? Que répondez-vous à cela, Moïse?
Ce qui n'est pas vrai. On n'a pas d'hypocrisie. Parlons franchement de la réalité des faits, là. Hein? Il dit qu'en matière de religion, quand on dit que c'est rouge, là, je suis d'accord. Ok, c'est rouge. Mais on n'est pas dans une république islamique non plus. On est d'accord. La loi est faite, hein, de telle sorte qu'elle puisse arranger tous les peuples. Le Mali n'est pas seulement un peuple musulman. Non, ça, il sait tout. On n'est pas dans une république islamique où c'est une dictature qu'on applique sur le peuple malien.
Mais je rappelle qu'officiellement, le Mali est un pays laïque.
Les Maliens ont d'abord été consultés. Tous les leaders religieux maliens ont été mis en place afin de pouvoir accepter cette loi. Ce n'est pas le président de la République qui s'est levé matin bonheur pour dire que non, on va faire telle ou telle chose. Non, il faut qu'il comprenne d'abord que la religion à côté et l'État à part. Il faut faire la part des choses. L'État doit prendre ses responsabilités. Moi, à la place de la République, la loi, je vais le promulguer.
Merci Moïse, on a compris. Donc vous conseillez à Tété de promulguer la loi telle qu'elle. Un point, c'est tout, si je puis dire. On va demander à Draman, qui nous appelle de Ségou, qui nous écoute à Ségou sur 80.7, grâce à Radio Balanzon, s'il est d'accord. Alors Draman, à votre avis, est-ce que comme Moïse, vous pensez que le président Amadou Toumani Touré n'a qu'à promulguer cette loi et puis un point, c'est tout?
Bonjour d'abord à RFI et à tous les auditeurs de RFI. J'aimerais dire à Moïse que si jamais le président promulguait la loi là, ça risque de créer beaucoup de problèmes au Mali. Vous savez que le Mali tient beaucoup à la famille. Et la famille, c'est au cœur de tout au Mali. Et si on comprend bien le nouveau code met en danger l'union et la cohésion au sein de cette famille.
Alors qu'est-ce qui met en danger précisément l'union et la cohésion de la famille dans ce code?
Le fait que la femme ne doit plus obéir, un, à son mari, et de deux, le fait que la femme doit faire toutes ses activités commerciales sans consulter ou sans avoir l'aval de son mari. C'est très important. Parce que, imaginez, moi, je préférerais qu'on mette un consensus dans ce domaine. Au lieu de, sans accord de son mari, qu'on mette un consensus. Vous savez que si jamais le président promulguait les codes, sans tenir compte des préoccupations de la plus grande majorité des Maliens, nous, le Mali est un pays de paix, on risque d'oublier ça.
Alors, que doit faire le président? Il doit poursuivre les consultations?
Le président doit poursuivre les consultations en tenant en compte les préoccupations des uns et des autres et en engageant un comité d'experts, de leaders de l'opinion pour relire entièrement le texte et engager un processus pour la sensibilisation de la communauté à la base.
Alors, vous parlez de la sensibilisation. Le premier auditeur disait que c'est beaucoup un problème d'information. Est-ce que vous pensez aussi qu'il faut que les populations soient mieux informées sur l'application de ce nouveau code?
Oui, il faut que les populations soient mieux informées. Au-delà de ça, je pense qu'il faut que les députés soient mieux informés. Parce que vous savez qu'au Mali, beaucoup de députés ne connaissent même pas ou ne maîtrisent pas le contenu du nouveau code. Et ça, c'est un problème. Ils sont votés parce que leur formation politique les a demandé de voter. Et je sais, dans l'actualité, il y a des leaders de partis qui ne sont pas d'accord avec le code pendant que leurs députés ont voté pour. Est-ce que vous comprenez?
Donc, allez-y, Draman.
Oui, donc il faut que tout le monde soit sensibilisé sur le contenu du code et qu'il prenne en compte les préoccupations des uns et des autres. Tout de suite, l'autre disait, Moïse disait que toutes les parties ont été associées à l'élaboration de ce code. Je vais vous dire, Muriel, les préoccupations des musulmans n'ont jamais été prises en compte dans le nouveau code.
La majorité des députés sont quand même musulmans, pour ne pas dire tous. Le président de la République est musulman.
Oui, il est musulman. Mais il le disait aussi, Moïse, le Mali est un pays laïque. Il ne suffit pas d'être musulman président et de prendre en compte les préoccupations. Il faut tenir en compte des autres tendances religieuses. Mais c'est que les préoccupations des musulmans n'ont pas été prises en compte lors de l'adoption du nouveau code.
Mais Draman, est-ce que c'est la religion qui doit prédominer lorsqu'on décide du contenu d'une loi dans un pays?
Ce n'est pas la religion qui doit prédominer, mais il faudrait aussi tenir compte des préoccupations religieuses.
Draman, on vous a bien compris. On va passer à un autre auditeur parce que alors là, vraiment, vous êtes très, très nombreux aujourd'hui. Ce sujet vous passionne. On va demander à Maurice, qui nous écoute à Conakry, ce qu'il pense, lui, de ce nouveau code de la famille au Mali. Maurice, vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien, madame. Bonjour.
Bonjour, Maurice.
Alors, oui, voilà. Moi, je félicite le législateur malien. Parce que le législateur malien n'a traité d'autre chose que des droits reconnus à tout être humain. Le législateur malien n'a traité d'autre chose que des droits qui sont reconnus aux femmes, aux enfants, et je dirais même que j'ai été surpris de savoir que ce n'est que maintenant que le Mali ou le législateur malien se soit penché sur ces questions.
Pour vous, Maurice,
c'est des questions qui sont réglées depuis 60 et 61.
Oui, pour vous, Maurice, l'homme et la femme. 61. Maurice, pour vous, l'homme et la femme sont des êtres humains égaux en droit.
Mais oui, madame. Et puis, il faut préciser ceci. La femme est un sujet de droit comme l'homme. Il y a des conventions internationales que le Mali a ratifiées. Et la constitution malienne, qui est le substratum juridique, comme dans tous les États modernes, ne peut pas reconnaître à la femme la pleine capacité juridique. Mais comme nous sommes de dire, le Mali est un pays musulman. Mais bon sang. Pensez-vous que c'est... Écoutez, dans tous ces pays...
Maurice, vous nous appelez de Guinée. Vous nous disiez que ces problèmes ont été résolus en Guinée dans les années 60. Alors, est-ce qu'en Guinée, effectivement, il y a une totale égalité de droits entre la femme et l'homme? La Guinée, qui, je le rappelle, est un pays également majoritairement musulman.
Oui, mais cette question ne s'est jamais posée. Mais indépendamment même de cela, vous savez, en Afrique, les États ont précédé les nations. Lorsque nous prenons un État, quel qu'il soit, vous avez des groupes ethniques. Chaque groupe ethnique a ses traditions, ses usages. Alors, dans le souci d'uniformisation, les législations nationales ont voulu créer un droit unique qui s'applique à tout le monde. Sans distinction de religion, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race ou de couleur.
Qu'est-ce qu'il en est en Guinée, par exemple, des enfants nés hors mariage? C'est un point qui pose souvent problème dans le nouveau code de la famille du Mali, c'est que l'enfant illégitime peut avoir accès à l'héritage au même titre que l'enfant légitime. Alors vous nous dites qu'en Guinée tout cela est résolu. Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, sur ce point précis dans la législation guinéenne? Est-ce que vous le savez?
Alors, l'article 494 du Code civil guinéen dispose que l'enfant dont l'auteur, au moment de sa conception, ne se trouve pas dans les liens de mariage, a une vocation héréditaire dans la succession de son auteur s'il est reconnu par lui. La qualité de ce droit est égale à celle de l'enfant légitime. Ce sont des dispositions qui ont été reprise par le code civil en vigueur guinéen, et je précise que ce code a été adopté et promulgué depuis 1983. Donc, il n'y a aucun problème.
Et alors, vous avez l'impression, Maurice, vous avez l'impression que depuis que ce code a été adopté en Guinée, les familles n'ont pas éclaté, il n'y a pas eu de drame, parce qu'il y a un de nos auditeurs qui disait, quand il n'y a plus de chef dans une famille, tout va à volo.
Mais pas du tout. En Guinée, la question ne se pose même pas. Un enfant naturel est celui qui est né de parents non mariés ou non encore mariés. Alors, comment moi, on peut m'expliquer, si cet enfant est reconnu par son auteur, qu'on me dise, oui, cet enfant n'a pas vocation héréditaire ou ne peut pas appréhender la succession de son père, par exemple, si c'est lui qui venait à décéder, hein? Parce que tout simplement, il n'est pas légitime. Bon, pour les non-juristes, je ne sais pas s'ils cherchent bien la question, mais l'enfant légitime est simplement celui qui est né, qui a été conçu, né ou conçu de parents mariés. L'enfant légitimé est celui qui est né, le parent non encore marié, mais qui est légitimé par le mariage subséquent de ses parents.
Maurice, on a bien compris votre point de vue et puis je vais vous interrompre. Vous êtes apparemment un juriste au fait des lois concernant la famille, en tout cas en Guinée. Mais alors comme vous êtes extrêmement nombreux à appeler, je vais quand même passer la parole à un autre auditeur. Je vais appeler Ama à ses goûts. Ama, je crois que vous, ce code de la famille ne vous plaît pas beaucoup.
Bonjour Muriel, pas du tout. Je rappelle à Maurice que ce qui est valable en Guinée ne l'est pas au Mali. Donc, ceci étant, je précise vraiment que le Mali est un pays laïque, mais dans cette laïcité, il faut que la majorité se reconnaisse. Laïque ne veut pas dire que brimer la majorité au profit d'une telle ou telle minorité. Les points qui font l'objet de divergences dans ce code de mariage, c'est des points très clairs, là. L'héritage, la succession et puis l'obéissance. Mais, je dis à Maurice que dans notre société, nous, Maliens, le tissu social est plus fort que ces textes de droit et autres là qu'il est en train de citer en Guinée. Nous sommes au Mali. Tout ce qui peut toucher à un segment du noyau familial, la famille élargie au sens du terme chez nous, on ne touche pas à ça. Plus, encore plus que ça.
Mais en quoi est-ce que vous avez l'impression que ce nouveau code met en péril le noyau familial?
Oui, mais quand on parle de désobéissance, on parle d'avoir l'enfant naturel doit avoir le même droit qu'un enfant légitime. Encore moins que chez nous, pas simple, le mariage n'est pas simplement ce que Maurice vient de dire. que dans l'héritage, les services, ce que je voudrais vous faire comprendre, madame, nous sommes un pays laïque, nous sommes d'accord, mais nous sommes un pays à large tendance islamique. Et tout ce qui touche à un cheveu du coulis du Livre-Saint, nous ne voulons pas vraiment toucher à ça. Comme on incite nos frères chrétiens également à veiller scrupuleusement sur leur Bible.
Alors, une question sur un point précis, par exemple, l'âge du mariage des jeunes filles. Est-ce que ce point, par exemple, vous pose problème, le fait de relever le mariage à 18 ans?
Non. Muriel, ce point ne me pose pas de problème.
Alors, donc il y a des points dans ce code qui vous donnent satisfaction quand même, hein?
Il y a des points qui nous donnent satisfaction, mais nous voulons. C'est pour les points cités par les religieux, vraiment, il faut les revoir. Je pense que le président de la République doit tenir compte de ce qu'il a vu comme démonstration sociale.
Oui, il a commencé, d'ailleurs, le président a commencé des consultations qu'il doit poursuivre aujourd'hui. Ama, je vais devoir vous dire au revoir parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, le sujet vous passionne, vous êtes très très nombreux à appeler et nous avons donc décidé de poursuivre ce débat demain. Nous reprendrons donc demain la discussion sur le code de la famille au Mali et vous pouvez donc toujours nous appeler sur ce sujet au 33 1 53 92 64 40 ou par courriel appel@rfi.fr. Comme chaque jour auparavant, les journalistes de RFI répondront à toutes vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité dans le monde, toujours au même numéro 33 1 53 92 64 40. Après le journal, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas en Afrique, vous avez rendez-vous avec François Bernard pour C'est pas du vent, l'émission de RFI consacrée à l'environnement, avec aujourd'hui un reportage en baie de Hanne au Sénégal, une magnifique baie qui est en train d'être